journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer.
La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes, c'est une émission de l'Organisation des défenses des droits humains, partenariat pour la protection intégrée PPI en sigle.
La voix des DDH et des journalistes parle des activités des promotions de la paix et des protections de défenseurs de droits humains et des journalistes et encourage la collaboration avec les institutions étatiques pour l'amélioration de leurs conditions de travail en République démocratique du Congo.
Incarcéré. Auditrices, auditeurs, bienvenue encore une fois à l'écoute de votre émission La Voix des DDH et des journalistes, une émission de l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI œuvrant pour la promotion de la paix et des protections des défenseurs des droits humains, des journalistes et des médias. Ce nouveau numéro va aujourd'hui vous parler de la situation des femmes journalistes de l'Est de la République démocratique du Congo pendant et après les élections qui ont eu lieu en décembre 2023. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Julienne Basseke, qui est la coordinatrice de l'Association des femmes des médias AFEM. Bonjour et bienvenue Madame Julienne.
Bonjour, merci.
Pouvez-vous nous parler de la situation des femmes journalistes de l'Est de la République démocratique du Congo pendant et après les élections de décembre 2023?
La situation des femmes journalistes pendant le processus électoral. On peut dire d'abord, on a remarqué cette grande mobilisation de femmes journalistes pour l'accès équitable des femmes à l'information sur les élections, parce que leur rôle, il est très important. Il est même capital, parce que les élections, c'est vraiment un grand rendez-vous citoyen. Donc, participer aux élections, participer au processus, c'est à la fois un droit et un devoir civique. Et donc, on a vu que les femmes journalistes étaient mobilisées et on a vu leur valeur ajoutée pour couvrir l'information, traiter l'information relative aux élections. D'une certaine manière, on peut dire que dans le processus, on n'a pas vraiment identifié ou relevé des incidents graves pour ce qui est de leur travail ou de leur métier. Mais quand vous voyez les élections, c'est une compétition. Il y a toujours des candidats qui toutes et des candidates sont en compétition. Et on sait qu'on est dans une société qui connaît encore beaucoup de stéréotypes socioculturels où on pense que voilà, la politique, c'est un métier atypique pour les femmes. Et donc, le fait pour les femmes journalistes de relayer le voix, surtout de femmes candidates et des femmes en tant qu'électrices, de femmes observatrices électorales, de femmes témoins également. Parfois, les femmes journalistes ont fait face à une certaine perception négative. Donc, pour dire, voilà, ce sont elles qui veulent normaliser le fait que les femmes soient présentes, par exemple, sur la scène politique et tout. Il y a toujours ces stéréotypes, il y a toujours à cette pesanteur culturelle. Il y a aussi d'autres hommes qui ont indexé les femmes journalistes comme étant contre leurs intérêts. Parce que si c'est dans une circonscription, c'est des hommes qui étaient en compétition avec les femmes. Et donc, il y a certains hommes qui ont mal perçu cet engagement des femmes journalistes pour l'accès équitable de femmes à l'information sur les élections aux médias et qui ont estimé que voilà, donc les femmes, elles sont là pour faire une contre-sensibilisation à notre gare, donc une contre-mobilisation parce qu'ils mobilisent l'opinion pour voter pour les femmes et qui ont perçu cela comme une menace. Mais il faut dire que les femmes journalistes ont résisté à ces pesanteurs et à ces stéréotypes parce que il y a un travail qui a été fait bien avant pour sensibiliser les femmes journalistes sur leur rôle et leur place avant, pendant et après les élections, dans tout le processus électoral. Donc, on a anticipé certaines situations, notamment cette défensive des hommes par rapport au travail que les femmes journalistes font, donner l'espace aux femmes pour s'exprimer, pour exprimer leurs ambitions, pour expliquer combien ce sont de candidats indiqués, par exemple pour différents postes électoraux. Et donc, cela n'a pas été sans avoir ces petites bousculades, mais il n'y a pas eu vraiment d'incident majeur qui a empêché aux femmes journalistes de jouer le rôle d'informer, de sensibiliser, de mobiliser, surtout d'élever, de relayer le voix de femmes en tant qu'électrice, en tant que candidate, en tant qu'observatrice, en tant que témoin pendant le processus électoral.
Pendant ces processus, si on parle spécialement de la période de campagne, on a vu des candidats qui ont fait des déplacements des différentes villes vers des coins du pays et dont dans leur délégation pouvait y avoir des femmes. Est-ce qu'ils étaient dans des bonnes conditions, tant sur les plans hygiéniques que sécuritaires?
Par rapport à l'accessibilité de femmes journalistes dans certains sites, dans certaines zones enclavées, éloignées, il y a eu vraiment un sérieux problème. Les femmes journalistes se sont butées vraiment à des sérieuses difficultés. D'abord parce que le moyen logistique, les conditions n'étaient pas réunies pour leur descente sur le terrain. Comme vous le savez, les femmes et les hommes journalistes ont de besoins physiologiques et biologiques différents. Et donc la santé sexuelle et reproductive de femmes implique de besoins différents par rapport aux hommes. Et donc, dans beaucoup de cas, il fallait se rendre dans les sites ruraux pour recueillir le voix, le témoignage, s'assurer que tout le monde a accès équitable à l'information. Mais les conditions de voyage étaient très difficiles pour les femmes. Par exemple, prendre la moto, il y a des sites même où il n'y a pas de route, c'est pas praticable, donc le véhicule ne peut pas y accéder. Donc, devait aller en moto, ce qui était vraiment un sérieux problème pour les femmes. À part ça, d'autres conditions hygiéniques pour les femmes qui n'étaient pas couvertes, quand bien même elles pouvaient braver la peur et les risques pour se rendre sur le terrain. Il y a des conditions hygiéniques, par exemple, donc les bandes hygiéniques, par exemple, dont elles ont besoin, là où elles vont dormir, l'eau pour leur hygiène et tout. Tout ça, donc, c'était vraiment des sérieuses difficultés parce qu'il n'y avait pas de ressources, en fait, et une logistique vraiment sensible au genre et appropriée pour pouvoir couvrir ces besoins spécifiques de femmes. Donc, il y a ces deux filles par rapport aux besoins spécifiques de femmes. Et aussi, l'autre défi que j'ai mentionné précédemment, c'est par rapport aux stéréotypes socioculturels, cette pesanteur, où les femmes étaient perçues comme des personnes contre les intérêts de certains candidats. Parce que quand les femmes, elles sont là pour sensibiliser les femmes, voilà, vous avez aussi le droit de participer, vous avez les compétences à sensibiliser la communauté sur le rôle ou la place de femmes aussi dans les élections et dans la gouvernance. Donc, il y avait parfois cette perception erronée où certains candidats pensent que les femmes viennent démobiliser leur base, donc elles sont en train de travailler contre leurs intérêts. Donc tout ça, on a fait face à ces genres de bousculades, à ces genres parfois des tractations. Heureusement, cela a été déjà bien prévenu parce que AFEM a travaillé en amont avec les femmes pour les sensibiliser davantage sur leur rôle, les femmes journalistes, et aussi les sensibiliser sur les risques. Le risque lié à leur profession pendant la période électorale et sur les stratégies pour les mitiger. Ou travailler sur la mitigation de tous ces risques afin que cela ne mette pas vraiment en risque leur vie et aussi entraver leur travail.
Et en gros, quel est le prix à payer pour une femme journaliste qui se lance à la course derrière l'information pendant et après la période électorale?
Bon, je pense que le prix pour les femmes journalistes, il y a d'abord toutes ces difficultés que je viens de dire pour accéder à l'information et à des sites, surtout le plus enclavé, relayer le voix. Il y a également ces menaces qu'elle encourt, parce que toujours avec ces stéréotypes, cette compétition et avec le contexte d'ici, où la démocratie, c'est encore un exercice et où les acteurs et les actrices politiques hésitent encore entre le fait d'être professionnel dans le métier de politique, l'amateurisme également, tout ça, l'opportunisme. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur les femmes journalistes, parce que les femmes journalistes, ça j'ai oublié de le mentionner, ont dénoncé beaucoup d'irrégularités par rapport au processus électoral. Et ces irrégularités étaient perçues comme des accusations par certains acteurs qui étaient concernés et qui étaient redevables par rapport à toutes ces irrégularités qui ont été constatées, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'abus et il y a beaucoup de dénonciations et parfois de femmes journalistes qui ont fait ces dénonciations ont été indexées pour dire voilà, elles sont là, elles sont en train de dire, pour donner une image négative du processus, du travail qui est fait. Donc il y a toutes ces menaces-là qui pèse sur la femme journaliste, et aussi c'est son rôle de pouvoir assurer un accès équitable aux femmes, comme je le disais, et qui constitue une menace, qui est perçue comme une menace pour d'autres acteurs politiques. Et on sait les contextes d'insécurité, contexte sécuritaire volatile, il y a leur vie également qui est menacée, qui est en danger par rapport à tout ça. Donc c'est autant de choses, mais je peux anticiper peut-être la question suivante, qui doivent être prises en charge par de structures fortes de protection de journalistes et de défenseurs de droits humains, notamment l'application de l'édit provincial portant protection de journalistes et de défenseurs et défenseurs de droits humains. Donc on pense que les femmes journalistes ont besoin d'une protection spéciale, si je peux le dire ainsi, en contexte de électoral, parce que même quand la femme journaliste doit effectuer une descente et qu'elle aille sur le terrain pour parler des élections, sensibiliser la communauté sur le profil d'un bon candidat, une bonne candidate, sur les rôles et la place de femme, on connaît la crise sécuritaire qui est chez nous. La plupart des fois, elle court de risques aussi d'être violée, d'être menacée, d'être tuée également, parce que on sait que les femmes sont confrontées à cette menace dramatique et particulière. On sait que pour la faire taire, pour l'humilier, pour la neutraliser, il faut la violer. Donc ça aussi, c'est une sérieuse menace qui pèse sur les femmes journalistes. Et pour tout ça, nous pensons qu'il faille qu'il y ait vraiment de réformes avec des structures fonctionnelles, en tout cas qui protègent le défenseur, le journaliste dans leur métier de promotion de la démocratie.
Voilà, mesdames, messieurs, auditrices, auditeurs, c'était là votre émission La Voix des DDH et des journalistes, une émission de l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI. Aujourd'hui, nous avons parlé de la situation des femmes journalistes de l'Est de la République démocratique du Congo pendant et après la période électorale. Pour en parler, nous étions avec Madame Julienne Basseke, qui est la coordinatrice de l'Association des femmes des médias AFEM, à qui nous disons merci.
Merci beaucoup, Frédéric.
À la présentation, j'étais Frédéric Bagalois. Merci à Internews qui nous a permis la protection de cette émission à travers les projets Protéger la liberté d'informer en République démocratique du Congo. Produire. Merci et à la prochaine.
Cette émission est réalisée dans le cadre du projet Protéger la liberté d'informer en RDC, ProLire en sigle, avec l'appui technique d'Internews, grâce au financement de la coopération suédoise.
Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voix des sans-voix tués, tout ça doit changer.